Bonjour, ici Ted Dunn et vous écoutez Réflexions au Carrefour. Ces réflexions sont proposées aux leaders, aux communautés et aux chercheurs qui se tiennent à un seuil, des lieux où quelque chose de familier prend fin et où quelque chose de nouveau commence à émerger. La réflexion d'aujourd'hui s'intitule « La synodalité échouera sans le travail intérieur de transformation ». Elle porte sur la différence entre le changement et la transformation. On parle beaucoup de synodalité ces temps-ci. C'est compréhensible. C'est le langage du moment. C'est devenu l'un des moyens centraux par lesquels l'Église tente de parler de participation, d'écoute, de responsabilité partagée, de discernement et de mission. Des conférences de leadership à travers le monde proposent des ressources. Rome passe de l'événement à la mise en œuvre. Les congrégations se demandent ce que signifie la synodalité pour les chapitres, les conseils, la formation, la gouvernance, la mission, la vie interculturelle et la collaboration avec les partenaires laïcs. Tout cela est bon et nécessaire, mais ce n'est pas suffisant pour réussir ce que promet la synodalité. La synodalité échouera si elle devient un mot de vocabulaire ecclésial de plus que nous apprenons à utiliser sans changer réellement notre manière de vivre, de décider, d'écouter, de diriger et de nous abandonner. Nous avons déjà vu cela auparavant. L'Église a une longue mémoire pour les beaux discours et un bilan mitigé quant à la capacité de ce langage à bouleverser nos habitudes bien ancrées. Cela peut sembler un peu direct, et je pense que cela doit l'être, car la synodalité n'est pas d'abord une méthode. Ce n'est pas un processus de consultation. Ce n'est pas une série de discussions autour de tables avec des marqueurs de couleur et des comptes rendus soigneusement élaborés. Ces éléments peuvent aider. Parfois, ils aident beaucoup, mais la synodalité, dans sa profondeur, exige une transformation de la conscience. Elle nous demande de voir les choses autrement. Elle nous demande d'écouter à partir d'un autre endroit. Elle nous demande de devenir un autre type de communauté et c'est là que les choses deviennent intéressantes. De nombreuses communautés religieuses connaissent déjà le langage du discernement communautaire. Elles ont des chapitres, des assemblées, des constitutions, des conseils, des comités, des cercles, des processus et la prière. Elles savent comment se rassembler. Elles savent comment produire des déclarations d'orientation. Elles savent comment nommer des valeurs. Mais chaque communauté sait aussi ceci. La présence d'un processus même bien planifié ne garantit pas la présence de la transformation. Une communauté peut organiser une séance d'écoute et pourtant éviter la vérité. Un conseil peut demander des avis tout en sachant déjà ce qu'il compte faire. Un chapitre peut parler de courage tout en protégeant silencieusement ce qu'il ne veut pas perdre. Une congrégation peut invoquer la mission et être tout de même gouvernée par la peur. Ce n'est pas de l'hypocrisie. Ce n'est même pas de la mauvaise volonté. C'est simplement humain. C'est institutionnel. C'est ce qui se passe lorsque des communautés sous pression se raccrochent à ce qu'elles connaissent, surtout lorsque l'avenir est incertain et que les enjeux sont importants, et les enjeux de nos jours sont importants. Les instituts religieux font face à des réalités qui ne sont pas seulement théoriques, des membres vieillissants, moins de nouveaux entrants dans de nombreuses régions du monde, une complexité multiculturelle, croissante, des tensions financières, des ministères parrainés en transition, des propriétés trop grandes pour les besoins actuels, des viviers de dirigeants qui se réduisent, des systèmes de soins sous pression, des questions de mission auxquelles il n'est plus possible de répondre en répétant ce qui fonctionnait autrefois. Certaines communautés se demandent si elles peuvent continuer telles qu'elles sont. D'autres se demandent ce qu'il faut abandonner. Certaines se demandent ce qui peut être confié à d'autres. Certaines se demandent si la diminution est la fin de l'histoire, si elles doivent aller jusqu'à l'achèvement ou s'il existe encore un appel plus profond caché en elles. Je crois qu'il y a une invitation plus profonde, mais elle ne sera pas trouvée par la seule gestion. La gestion, les budgets, le droit canonique et le droit civil comptent. Les structures de parrainage comptent. les ressources humaines, les soins aux personnes âgées, la protection, la planification immobilière et le développement du leadership, tout cela compte. Il n'y a aucune vertu à prétendre que ces préoccupations pratiques sont superficielles ou indignes de nous. Elles ne le sont pas. Elles font partie du terrain. Mais la synodalité demande quelque chose de plus qu'une administration compétente. Elle demande si nos manières de diriger et de décider sont capables d'accueillir et de coopérer avec la grâce. Elle demande si nos structures sont conçues uniquement pour le contrôle et la continuité, ou si elles peuvent aussi accueillir le chagrin, l'imagination, la vérité, le conflit et l'émergence lente de quelque chose de nouveau. C'est un travail intérieur et sans cela, la synodalité devient décorative. Le travail intérieur de transformation implique 5 mouvements ou processus dynamiques qui nous aident à coopérer avec la grâce. Le premier est un changement de conscience. Cela commence lorsqu'une communauté commence à examiner les récits qui la gouvernent. Chaque congrégation a des récits officiels. Ce sont les histoires racontées dans les déclarations de mission, les documents de vocation et les textes de chapitre. Elles comptent. Elles portent la mémoire et l'identité. Mais les communautés ont aussi des récits cachés. Nous sommes trop vieux et trop peu nombreux. Nous avons déjà essayé cela. Les membres plus jeunes n'apprécient pas ce que nous avons construit. Les membres plus âgés ne changeront jamais. Nous ne pouvons pas parler de cela. La direction a déjà décidé. Si nous disons la vérité, les gens vont s'effondrer. Ces récits cachés sont puissants. Ils façonnent ce qui peut être imaginé et ce qui ne le peut pas. Ils déterminent qui prend la parole et qui reste silencieux. Ils influencent si un conseil dirige avec courage ou avec la prudence déguisée en prudence. La synodalité exige un nouveau récit. Pas une fantaisie, pas un discours institutionnel d'encouragement, mais un récit véridique. Un récit assez vaste pour contenir à la fois le deuil et la fécondité. Un récit assez honnête pour dire « Nous ne sommes plus ceux que nous étions, sans sombrer dans « Nous sommes finis ». Un récit assez fidèle pour demander « Qu'est-ce que Dieu fait maintenant ?» Sans avoir besoin que la réponse ressemble à ce que Dieu faisait il y a 50 ans. C'est pourquoi la transformation de la conscience n'est pas un luxe. C'est une porte d'entrée. Le deuxième mouvement dynamique consiste à revendiquer la voix intérieure. Pour les individus, cela signifie apprendre à parler à partir du moi profond, plutôt qu'à partir du rôle, de la peur, de la conformité ou du ressentiment. Pour les communautés, cela signifie tomber les masques et retrouver la voie collective du charisme, de l'appartenance et de l'intimité. Beaucoup de personnes dans la vie religieuse ont été formées, parfois subtilement et parfois explicitement, à être conciliantes, à être gentilles, à préserver l'harmonie, à éviter de compliquer la tâche des responsables, à attendre, différer et endurer. Et il y a de la vertu dans la retenue, mais il y a aussi un danger à cela. Le discernement communautaire n'est pas favorisé lorsque les gens cachent poliment ce que tout le monde a besoin d'entendre. Ce n'est pas non plus utile lorsque la véritable conversation n'éclate que dans les parkings, les salles à manger, les apartés ou les courriels envoyés après la réunion. La synodalité demande une voix plus mature, une voix capable de dire la vérité sans violence, une voix capable de nommer la peur sans s'y soumettre. Une voix capable de dire « Je ne suis pas d'accord » tout en restant en communion. Une voix capable de dire « Je suis en deuil » sans exiger que la communauté cesse d'avancer. Une voix capable de dire « Quelque chose de nouveau nous appelle » même lorsque cette nouveauté n'est pas encore claire. Ce type de voix se forme. Elle n'apparaît pas simplement parce que l'on place des gens autour de tables rondes. Un troisième mouvement dynamique est la réconciliation et la guérison. C'est peut-être la dimension la plus négligée de la pratique synodale. Les communautés essaient souvent de discerner l'avenir tout en portant des blessures du passé qui ne sont pas guéries, anciens conflits, déceptions liées au leadership, blessures culturelles, méfiance générationnelle, division régionale, expérience d'avoir été ignoré, contrôlé, humilié, négligé ou exclu. Il y a beaucoup de bagages émotionnels. Ces blessures ne disparaissent pas simplement parce que l'ordre du jour a changé. Elles restent présentes dans la pièce. Parfois, elles restent très silencieuses. Elles influencent l'ambiance de la conversation. Elles déterminent qui fait confiance à qui et qui parle avec qui. Elles décident du niveau de risque qu'une communauté peut prendre. Elles rendent certaines propositions dangereuses avant même qu'elles aient été examinées. Elles déterminent qui est valorisé et cru et qui ne l'est pas. Trop souvent, ces blessures mènent à la triangulation, les membres s'adressant à la direction au lieu de se tourner les uns vers les autres et de faire le difficile travail de réconciliation. C'est pourquoi la réconciliation et la guérison ne sont pas des compétences optionnelles pour le leadership synodal. Ce travail est central. Les leaders forts aujourd'hui ne se contentent pas de gérer des tâches. Ils accompagnent et soutiennent les communautés à travers les seuils. Ils aident les membres à assimiler la perte. Ils invitent à la participation sans renoncer à leurs responsabilités. Ils créent des espaces, des lieux sûrs, où la vérité peut être dite sans être utilisée comme une arme. C'est un travail difficile. Pas étonnant que tant de leaders soient fatigués. Le quatrième mouvement dynamique est l'expérimentation et l'apprentissage. La synodalité ne se prouve pas par la beauté des discours d'une communauté sur la participation. Elle se prouve par la volonté de la communauté d'essayer de nouvelles façons de vivre son charisme. Les petites expérimentations comptent, une nouvelle forme de leadership partagé, une collaboration pilote avec une autre congrégation, une utilisation réimaginée des biens immobiliers, une nouvelle manière d'impliquer les partenaires laïcs dans le discernement de la mission, un rythme différent pour la réflexion du conseil, une conversation interculturelle qui va au-delà de la célébration pour aborder le travail plus difficile du pouvoir de l'appartenance et de la conversion mutuelle. Un processus de chapitres qui pose moins de questions abstraites et davantage de questions porteuses de conséquences, avec plus d'espace pour un dialogue approfondi et moins de rapports interminables. Les expérimentations sont importantes parce qu'elles permettent à une communauté de sortir des délibérations sans fin et de dépasser le statu quo. Elles génèrent de l'apprentissage. Elles réduisent l'illusion que l'avenir se présentera tout fait sans que personne n'ait à prendre de risques. Ce ne sera pas le cas. L'avenir se découvre généralement en marchant vers lui maladroitement au début. Le cinquième mouvement dynamique est la vision transformatrice. C'est plus qu'une planification stratégique. La planification stratégique demande quels objectifs devons-nous poursuivre. La vision transformatrice demande quel avenir cherche à nous pousser au-delà de nous-mêmes. C'est une question différente. Elle exige de prêter attention à l'appel et à l'amour de Dieu. Elle exige de l'imagination. Elle exige du chagrin, car toute véritable vision nous demande de laisser quelque chose derrière nous. Elle exige du courage, car l'avenir qui émerge s'accompagne rarement d'instructions complètes. Elle exige un discernement personnel et communautaire, et non un vote à bulletin secret. De nombreuses congrégations se trouvent aujourd'hui à un carrefour où les anciennes cartes ne fonctionnent plus. La tentation est de chercher plus intensément une meilleure carte, d'essayer plus fort plutôt que d'essayer autrement. Mais peut-être que l'invitation la plus profonde est de devenir le genre de personne capable de voyager sans carte. C'est peut-être cela que la synodalité nous demande réellement, pas simplement de meilleures réunions. Pas seulement une consultation plus large, pas un style de gouvernance plus doux. La synodalité nous demande si nous pouvons devenir des communautés de discernement en une période de bouleversement et d'émergence. des communautés capables d'écouter Dieu, de s'écouter les unes les autres, d'entendre les cris du monde et la sagesse silencieuse qui émerge du corps lui-même. Les thèmes de la synodalité sont la collaboration, le partenariat, le discernement communautaire et l'expérimentation. Ajoutez l'expérimentum. Cela exigera de nouveaux modèles de leadership. Oui. Cela exigera de nouvelles formes de gouvernance. Oui. Cela exigera de la collaboration, des transitions de parrainage, une formation interculturelle, une planification des soins aux aînés et des partenariats de mission. Oui à tout cela. Mais sous tout cela se trouve la question la plus difficile. Sommes-nous prêts à être transformés? Parce qu'on ne peut pas légiférer la conversion ou la transformation. Sans cette volonté, la synodalité sera absorbée par l'ancien système. Elle servira à bénir ce que nous avions déjà l'intention de faire. Cela deviendra un autre programme, un autre thème, un autre document, une autre conversation soigneusement animée qui change très peu de choses. Mais avec le travail intérieur de la transformation, la synodalité peut devenir autre chose. Elle peut devenir une école de conversion. Une manière de retrouver le courage communautaire. Un chemin de discernement qui ne nie pas la perte, mais ne l'idolâtre pas non plus. Une façon de permettre au charisme de respirer à nouveau sous des formes que nous n'attendions pas. Une manière d'écouter l'avenir que Dieu s'efforce déjà de faire advenir parmi nous. Ainsi, la question pour les conseils, les chapitres et les communautés n'est peut-être pas simplement « comment devenir plus synodaux ?» Peut-être que la meilleure question est celle-ci. Quel travail intérieur évitons-nous qui rend la synodalité nécessaire en premier lieu? Cette question ne rentrera pas facilement dans un tableau de planification. Tant mieux. Certaines questions ne devraient pas se conformer. Voici quelques questions de réflexion que vous pourriez vouloir méditer. Quelle capacité intérieure supposons-nous chez nos membres et nos responsables sans réellement les former? Ou utilisons-nous un langage synodal tout en préservant d'anciens schémas de contrôle, d'évitement, de passivité ou de politesse? À quoi ressemblerait la gouvernance si elle était conçue pour le discernement et non simplement pour la gestion? Quel deuil doit être honoré avant que notre communauté puisse imaginer librement l'avenir? Quelles petites expériences pourraient nous aider à apprendre à franchir la prochaine étape fidèle? Merci d'avoir écouté Réflexion au Carrefour. Vous pouvez retrouver la version écrite de cette réflexion ainsi que les réflexions et traductions à venir sur Grace Crossroads. Au fil des jours à venir, puissiez-vous remarquer ce qui cherche à émerger sous la surface des choses,